Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
J'étais pas au courant.
Eh ben, mais c'est à ça qu'on sert, Péricot, à vous tenir au courant de ce genre d'anniversaire.
Faut
voilà.
Bon. Faut s'appliquer un petit peu.
On va s'intéresser maintenant à la fin du jour. Pour vous, Péricot Légas, et pour tous ceux qui nous écoutent, cette fin du jour, c'est celle des lieux-dits en France. Alors qu'on en compte 6 millions de lieux-dits aujourd'hui dans l'Hexagone, une loi impose désormais l'obligation d'avoir un nom et un numéro de rue dans une adresse. Toute une partie de notre patrimoine culturel risque de se perdre.
Et la grogne monte dans les régions. Cette loi, tu l'as évoqué, c'est la loi dite 3DS. Une loi qui impose à toutes les communes de moins de 2000 habitants de donner avant janvier 2026 un nom à toutes leurs voies et lieux-dits et de numéroter toutes les maisons. Exemple très concret, nous sommes à Passavant sur l'Aillon, c'est dans le Maine-et-Loire, où le lieu-dit le Gâcheron, le Guincheron, qui vient du mot guinche, l'ajon en argot local, est devenu la route d'Aquitaine. Ce sont 6 millions de lieux-dits, tu l'as dit Estelle, qui évoquent l'histoire et la culture locale qui seraient ainsi menacés partout en France. Autre pierre dans le jardin des cultures locales, cette décision, il y a quelques jours, du tribunal administratif de Bastia. L'instance vient d'annuler une délibération de l'Assemblée de Corse qui consacrait l'usage de la langue corse au sein de l'hémicycle. Le juge administratif s'est appuyé sur l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui stipule que la langue de la République est le français.
C'est fou,
hein. Et alors même que le débat sur l'enseignement des langues régionales fait régulièrement rage, les statistiques font tout de même peine à voir, hein, même si le débat fait floresse, on le sait, il est en fait surtout symbolique. Seul 15 000 élèves en France aujourd'hui suivent leur scolarité dans un établissement dit immersif avec des cours en langue régionale, essentiellement en Bretagne et au Pays Basque. À peine 200 à 300 élèves de terminale présentent leur bac chaque année dans une langue régionale.
Alors est-on en train de perdre notre identité régionale, Péricot Légas, vous qui êtes basque?
Pas seulement régionale, continentale, l'identité européenne se délite, l'identité nationale qui se délite. La culture française en France est en train de régresser, et à plus forte raison les cultures régionales, puisque notre République est jacobine et qu'on a considéré depuis la Révolution que ces particularismes locaux étaient des résurgences, j'allais dire, d'une période occulte de la religion, des croyances. Bon, on a évolué depuis. C'était le débat entre Girondins et entre Jacobins. Le jacobinisme a gagné. Et puis l'éducation nationale, Anatole de Monzy, ministre de l'éducation nationale en 1925, l'éradication du breton est une nécessité sanitaire. Autrement dit, les gens qui parlent breton et dans les écoles défense de parler corse, défense de parler basque, défense de parler breton ou de cracher par terre. C'est-à-dire qu'on donnait honte à des gens qui étaient des citoyens français de ce qu'ils étaient de leur origine. On a évolué, il y a eu un débat, la loi Molac, bon, qui a été retoquée, mais enfin, le débat est là. Le problème est qu'on sait aujourd'hui que le plurilinguisme, le bilinguisme, est pour les enfants porteurs d'intelligence, de culture, d'aptitude à l'enseignement. Et les écoles que vous signalez, les diwan bretonnes ou les Icastola ou les Calandras, ce sont des écoles où la qualité de l'enseignement est exemplaire et les résultats scolaires sont absolument sublimes. Donc, il y a même au sein de l'éducation nationale des gens, mais est-ce qu'on pourrait pas, dès lors qu'on se débarrasse de cet aspect, attention, est-ce que le régionalisme, c'est un sécessionnisme? Est-ce qu'il y a dans les régionalistes des gens qui disent, on n'est pas France,
c'est
on
rare,
pas
là.
Bon, l'Assemblée de Corse, Gilles Simeoni, est un autonomiste corse, je ne le confonds pas avec les indépendantistes, il mène une politique cohérente et intelligente de conciliation avec la France, c'est le fait que l'on parle encore corse, en Corse, qui permet de maintenir ses traditions et ses valeurs. Les régions où on parle breton, en Bretagne, alors il y a très peu de locuteurs, parce que il est vrai que la télévision a fait un mal fou. Comme aujourd'hui l'anglais fait du mal aux Français par les chansons et par le cinéma. Donc est-ce qu'on fait ou non des exceptions culturelles positives et créatives? Est-ce qu'on se renforme sur soi-même ou est-ce qu'on va dans une globalisation?
Oui, mais toi, par exemple, tu parles basque ou pas?
Moi, je parle basque.
Est-ce que tu as appris le basque à tes enfants?
Alors, je n'ai pas appris le basque à mes enfants parce qu'ils habitent Paris.
Et
j'ai essayé de créer une école basque. Il fallait 25 familles, on n'était que 20 familles.
D'accord.
Voilà. Alors, ils parlent par contre une deuxième langue qui est une langue espagnole que je parle aussi, mais je suis entouré d'amis au Pays Basque, j'ai des amis corses, j'ai des amis bretons, dont les enfants sont dans les écoles linguistiques d'immersion. C'est-à-dire que l'immersion, on dit, et c'est ce qui avait inquiété les Jacobins, la langue de la République est le français. L'article 2 avait été fait par Lamassoure et Toubon, deux députés, pour protéger contre l'anglais, pas contre les langues régionales. Et aujourd'hui, on se sert de cet article nécessaire face à la mondialisation pour détruire des langues qui sont des langues de la République. Benjamin Morel, que vous adorez.
Eh ben, on l'aura dans un...
Voilà.
On l'aura,
eh ben, j'ai eu un grand débat avec lui dans Marianne.
Eh ben, je sais, c'est pour ça qu'on
voilà,
l'a invité.
Bon. On peut que s'entendre, mais on doit préserver ces langues régionales.
D'accord.
Parce qu'elles sont le patrimoine de la République et du peuple français. Et la langue de la Bretagne est une langue de la République, comme le corse et le basque. Bon.
On sent que vous êtes à fond sur ce débat.
Voilà.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Perico Légas, Jérôme Lavrieux, ou est-ce que pour vous, finalement, le régionalisme, c'est ringard?
Ni l'un ni l'autre.
D'accord.
Je trouve pas que ce soit ringard. Je pense que l'honneur de la République, c'est de permettre au régionalisme d'exister, de s'exprimer, et non pas comme Perico a raison. Ça a été le cas dans pendant très longtemps dans notre histoire, de le nier et de l'effacer. Mais pour autant, la République, en tant qu'unité, ne doit pas s'effacer derrière quelques particularismes locaux.
Mais qu'on n'ait pas le droit de parler en Corse, dans l'Assemblée corse, ça paraît aberrant,
non,
qu'est-ce que ça peut
non,
faire ?
Non, qu'on puisse parler en Corse partout, mais sauf dans une institution de la République qui est le Conseil régional de Corse, l'Assemblée territoriale de Corse, parce que tout le monde ne comprend pas et n'est pas obligé de connaître le Corse pour habiter en Corse, même en étant né. Et en fait, ils prennent des délibérations.
D'accord.
Donc ce sont des lois régionales quasiment, et elles doivent être connues et comprises par tous.
Okay.
Et la langue commune par tous, qu'on le regrette ou non, en Corse, comme en Picardie, comme ailleurs, c'est le français. C'est pour ça que ça doit
être
fait.
Mais elles le sont dans les deux langues.
Ça doit être fait. Qu'ils fassent en dehors de cela, dans des discours, dans des meetings, etc., en Corse, moi ça ne me pose aucun problème.
D'accord.
Aucun problème. Mais lorsqu'ils prennent des délibérations, ça doit être fait dans la seule langue qui puisse être comprise par toutes les personnes qui peuvent être affectées par ce texte. Sinon, la loi, elle est réputée non existante si on ne peut pas la connaître et si on ne peut pas la comprendre. Voilà, c'est le truc. Après, l'exemple qu'on citait, les hameaux...
C'est dramatique.
C'est super dramatique. Moi, j'habite dans une commune, il y a 44 lieux-dits.
Et bah alors ?
Mon adresse, c'est Les Omèdes, 24 300.
Bah, c'est mignon.
C'est super. La seule chose qui se perd, c'est pas le régionalisme, c'est les
courriers
quand je les commande. Parce que c'est sur aucun GPS.
Parce que Amazon ne vous livre pas vos paquets, c'est incroyable.
Non, mais parce que j'ai pas d'adresse.
Mais si vous avez une adresse, vous allez la donner à tout le monde à l'antenne.
On peut prendre
la toponymie. Sur leur GPS, ils ne trouvent pas.
Non, mais ça, c'est
du...
En deux mots, c'est dû à l'inculture des conseils municipaux. On peut prendre la toponymie.
Vous allez vous appeler Route
Oui, c'est ce que je dis.
Tu peux avoir les deux. Ça me rappelle le débat quand on a changé les plats d'immatriculation. On va disparaître parce qu'on enlève notre département.
C'était dommage.
C'était
très dommage.
Parce que moi, je suis né dans le 02. Je suis né dans l'Aisne. Je ne suis pas le fruit d'un chiffre. Je suis le fruit d'une histoire.
Je te signale que sur ta plaque, tu peux mettre le numéro que tu veux.
Bien sûr.
2022, parce que j'avais envie.
Bien sûr. Mais sauf que faut pas se focaliser sur un chiffre. Moi, je me focalise pas sur un code postal.
Est-ce que c'est un peu quand même une aseptisation de la société, vous voyez?
Alors,
pour parler, à un moment, Perico Légas a dit la télé a fait beaucoup de mal. À la télé, on a quasiment plus d'accent. Il y a Jean-Michel Apathy. Il y a un peu Vincent Moscato à la radio, mais à part ça, il n'y a plus rien.
Ça revient un petit peu maintenant. Les accents sont plus acceptés dans le milieu du journalisme et de la télévision. Premier point. Deuxième point, la norme pour moi, c'est la République une et indivisible. Une fois qu'on a ce parapluie-là, sous ce parapluie protecteur qui est indispensable, on doit pouvoir faire coexister tout ce qui est langue et patois. Moi, je connais encore quelques expressions du patois vendéen, mais je ne le parle pas. Ma grand-mère le parlait. Et alors, tu parlais tout à l'heure de l'école que tu as voulu créer. Je pense que ce qui pose problème, c'est le déplacement. C'est-à-dire que si j'étais resté, je pense, en Vendée, je continuerais sans doute à employer beaucoup plus des expressions du patois vendéen. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que faut garder les pratiques culinaires et les noms de lieux-dits. Moi, dans en Vendée, j'habitais dans un lieu-dit avec mes parents, ça s'appelait la Lourie. Et puis, un jour, ils ont mis une rue. La rue des Lutins, avec un numéro, ok.
Super.
Eh ben, on a mis.
Il y avait des lutins chez vous?
On a mis la lure, parce que il y a une forêt où, soi-disant, il y avait des lutins. Eh bien, l'adresse est devenue la Lourie, avec un numéro, rue des Lutins. et ensuite le code postal, et ça marche très bien. Il y a un milieu entre rien et tout. Oui. On n'est pas obligé de tomber mais d'un
excès. J'aime tellement
dans
les lieux dits que je l'ai pris dans le nom de mes gîtes. Donc, mais je ne peux pas être accusé de ne pas l'aimer. Ouais. Il y a un problème technique.
Il faut le mettre en valeur et le rajouter à l'adresse postale.
À cet échelon-là, le débat n'est pas trop polémique. On peut trouver des solutions. Le problème, c'est qu'il existe un peuple corse, reconnu par Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, retoqué par le Conseil d'État. Il y a une entité qui peut être reconnue comme peuple corse dans le cadre de la République française ou un peuple breton. Oui. Le débat, il est là. Est-ce qu'on peut l'accepter ou pas accepter cette idée ?
Sous le parapluie de la République une et indivisible, on doit pouvoir faire cohabiter plusieurs peuples.
Alors, on est avec Patrice, qui nous appelle de Cagnes-sur-Mer, pardon, dans les Alpes-Maritimes, et qui est professeur d'Occitan depuis 20 ans. Bonjour Patrice.
Bonjour à tous. Bonjour. Enchanté de vous entendre parler avec pas mal de connaissances sur le sujet.
Ah ben, vous avez plaisir. Patrice, vous êtes enseignant en lycée, en collège ?
Lycée.
Et est-ce que vous avez encore des étudiants en Occitan ?
Alors, ces 20 dernières années, on a eu une belle recrudescence. On est arrivé il y a 3-4 ans. Moi, j'étais dans un lycée où on était à 60 élèves par niveau, ce qui en faisait un record, toutes options confondues, peut-être même au niveau national. Mm-hmm. Après, bon, la réforme avec les spécialités nous a un peu marginalisés. Mais on est toujours là. On est toujours là. Donc, tant qu'on est là, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Et les élèves que vous avez, c'est des élèves qui ont envie de connaître l'occitan parce que c'est la langue de leurs grands-parents, par exemple, ou parce que ça leur fait plaisir. Ils viennent là pourquoi, en fait?
Alors, on a plusieurs profils. En fait, j'ai l'élève qui le parle encore chez lui, même s'il sera réfi, qui vient souvent du Haut-Pays niçois. Et puis, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent de divers horizons pour s'intégrer à l'endroit où ils vivent. Cette année, mes meilleurs élèves sont d'origine moldave et une d'entre elles voudrait peut-être devenir prof d'occitan. Donc, c'est assez intéressant.
C'est génial.
Nous, à Nice, tous les profs de niçois sont d'origine italienne parce que nos grands-parents sont passés par le Nice pour s'intégrer à la France. Il n'y avait aucun problème entre France et Nice, quoi.
Et vous, vous ne dites pas, Patrice, que finalement l'identité régionale est en train de se perdre. Voilà, vous êtes l'exemple que ça ne se perd pas, au contraire.
Alors, je travaille aussi sur Radio France en tant que chroniqueur et donc je peux voir que l'intérêt est là par rapport à il y a 20 ans où c'était encore un petit peu ringardisé ou dans les années 80 où on veut tous devenir américains, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Le problème, c'est que les décideurs en France sont beaucoup trop frileux, pour pas dire autre chose,
et beaucoup trop parisiens.
Voilà. Oui, mais oui, enfin, quand on dit parisien, c'est dans la tête, hein. Voilà, on a des élèves qui peuvent pas s'inscrire parfois. À la radio, on pourrait peut-être faire mieux. Dans les médias, on pourrait sans doute faire mieux. Et malheureusement, on a toujours la case du régional de l'étape un peu folklorisé. Ça, c'est un petit peu dommage. Au niveau des décideurs, on est resté très, très centraliste, très, très jacobin. Par contre, au niveau du français moyen, il y a une véritable appétence.
Ben merci beaucoup en tout cas, Patrice, pour ce témoignage. Et voilà, ça fait du bien de savoir qu'il y a plein de jeunes qui veulent apprendre des langues régionales. Mais est-ce que, Perico, justement, dans les médias, on devrait ouvrir plus, pas aux langues régionales, mais en tout cas aux accents?
Non,
parce qu'encore une fois, il y a quasiment plus d'accents.
Vous avez des médias régionaux, vous avez des émissions sur France 3 qui sont dans les langues, dans les langues locales. Il y a des sites, il y a des émissions, il y a des programmes, il y a des publications qui sont dans les langues régionales. Qui se pendent. Alors, elles sont juste dans la survie. Elles sont juste dans la survie. Mais le fait est, de même que le français régresse, évidemment que les langues régionales régressent. Et je vous dis, c'est un problème mondial. Est-ce qu'on va vers une société globalisée, dans le globish, américanisée, à tous les points de vue? Les mœurs, les programmes, les mœurs alimentaires. Ou est-ce qu'on préserve nos patrimoines culturels et nos identités régionales, humanistes? Moi, je connais en Bretagne des ressortissants marocains qui sont arrivés en Bretagne. Mmh. Ils ont mis leurs enfants à l'école Diwan, alors qu'ils n'ont aucun lien avec la culture bretonne, en disant, nous voulons nous intégrer. Et nous allons nous intégrer en commençant par l'échelon régional breton. On va faire de nos enfants des bretons et ça fera d'excellents français. Quel merveilleux et quel intelligent raisonnement. Mais je crois que l'avenir de la France, on est peut-être un peu trop jeunes, nous connaîtrons un jour une France plurielle, je vais peut-être pas dire fédérale à l'allemande, mais il y aura une entité alsacienne, il y aura peut-être des gouvernements régionaux, il y aura peut-être des parlements, peut-être que le régionalisme va être développé avec des pouvoirs législatifs pour les régions. Pour l'instant, c'est pas possible. On n'est pas prêt. Mais c'est inévitable. Si on veut sauver la République française, il faut sauver sa diversité, préserver les particularismes. Vous savez pourquoi ? Parce que ça rapproche les citoyens du niveau de pouvoir. Le parisianisme, aujourd'hui, il était nécessaire pour unir le pays en 89, et c'est formidable ce qui a été fait, au niveau scolaire, au niveau politique, au niveau social. Aujourd'hui, il faut redonner aux régions des pouvoirs législatifs et politiques pour que les citoyens puissent décider localement, et vous verrez, ça va arranger beaucoup de problèmes.
C'est la décentralisation. Vous avez plein de messages, Rémi.
Message, par exemple, de Luc, qui nous écrit sur Direct Studio. Bonjour à toute l'équipe, ce n'est pas une bonne idée de supprimer les lieux-dits dans les communes. Tout d'abord, au niveau cadastral, chaque parcelle est rattachée à un lieu dit dans une commune. Quand on parle d'un propriétaire, on l'associe toujours à un lieu et un lieu dit. À titre personnel, je suis apiculteur. Mon exploitation et mon rucher sont rattachés et dénommés par rapport à un lieu dit, les ruchers de la Nouette à Saint-Amel, Ille-et-Vilaine, amicalement.
Voilà. Ça ne changera pas.
Faut pas que ça disparaisse.
Mais non, mais les gars, quand vous avez un lieu dit où il y a quatre rues, il faut bien que les gens aient une adresse. Ça peut pas être juste le lieu dit. Donc il faut un nom de rue.
On est d'accord.
Il faut qu'il y ait un numéro.
On le rajoute, c'est tout.
Voilà.
Bah, c'est bah, ce avant, que, ça c'est... marchait très bien. Oui. Il y a ça, non, ça marchait pas.
Alors faites confiance aux facteurs pour connaître les gens.
Si t'as ça, tu peux même pas te raccorder à Internet.
Oui.
Parce que on ne reconnaîtra pas le là où on va te mettre ta prise Internet. Oui.
Et si.
Ah si, c'est comme ça.
Mais pauvres amis. Mais pauvres chéris, on va vous donner des pigeons voyageurs et du tam tam.
Non, incroyable. Bon, on est avec Benjamin Morel. C'est notre invité sur ce débat, politologue et auteur de La France en miettes aux éditions du Cerf. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Et salut Perico. Bah oui, ça nous fait toujours plaisir d'être avec vous. Il vous réclamait, Perico les gars, sur ce débat.
On fait un grand
Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'on est en train de perdre notre identité régionale pour vous, Benjamin Morel?
Bah, il y a plusieurs éléments, si vous voulez. Alors sur les lieux dits, oui, évidemment qu'il faut les préserver. Sur les langues régionales, évidemment que là, il faut avoir une politique proactive. Mais attention à ce que l'on fait. Tout à l'heure, Perico disait, oui, c'est normal qu'en Bretagne, on parle breton. Regardez ce qui s'est passé très récemment à Vitré. Vous avez la maire de Vitré, Isabelle Le Callennec, qui a mis des panneaux en breton. On n'a jamais parlé breton à Vitré. Jamais depuis le Moyen-Âge, en fait. On parlait le gallo, qui est une langue d'oïle. Et donc, on fait les partisans du gallo, ils ont démonté les panneaux parce qu'ils avaient l'impression qu'on niait leur identité, qu'on la détruisait en posant des panneaux dans une langue qui n'avait jamais été parlée à Vitré. Et donc, on a là une situation qui, aujourd'hui, est une situation qui doit être bien nuancé, qu'on enseigne les langues régionales et qu'on enseigne de manière plus proactive. Ça, c'est probablement une évidence. Et aujourd'hui, il faut qu'en effet, l'école de la République a considéré que ce n'était pas vraiment d'intérêt général jusqu'à présent, tout bêtement, parce que, comme ça a été dit, ça ne voudrait pas un espace public au niveau national. Je n'ai pas besoin d'un langue régionale pour comprendre la loi, etc. C'est ça le but original de l'école au XIXe siècle. Donc ça doit être en effet pris en considération. Ça implique de la formation d'enseignement, ça n'implique pas forcément de modifier la Constitution ni rien. Là-dessus, les blocages n'existent pas, même s'ils sont essentialisés par les militants. Ça implique essentiellement d'avoir des enseignants. Mais ça implique également qu'on enseigne les langues régionales là où elles ont été historiquement parlées. Et à Vitré, on n'a jamais parlé gallo. D'où le fait qu'on peut être dans une démarche très idéologique vis-à-vis de ces langues. Et évidemment, quand c'est idéologique et quand c'est un objectif politique, souvent ça pose problème du point de vue de l'unité du pays, de la République.
Mais Benjamin Morel, est-ce qu'on ne devrait pas, quand même, à l'école primaire, par exemple, et peut-être au collège, donner des cours régionaux aux enfants? On vient tous d'une région. Chaque école primaire, chaque collège est dans une région. Donner, en tout cas, des clés à l'enfant pour connaître la région dans laquelle il vit. Parce qu'en plus, ça pourrait intéresser les élèves de savoir où ils vivent, les principaux monuments de la région, etc. Et pas toujours donner, on va dire, une éducation parisienne, finalement.
C'est ce qu'était déjà fait un peu sous les 3e et 4e républiques.
Oui, j'allais vous dire, ça se fait plus.
Vous abordiez l'éducation, l'histoire de France, la géographie de la France, en partant de l'échelon local. Et c'est valide également du point de vue de la langue, quand vous regardez un petit peu les programmes linguistiques. Le problème, encore une fois, il est très pratico-pratique en la matière. C'est-à-dire que, pour la géographie de l'histoire, c'est déjà un petit peu fait. En tout cas, moi, j'apprenais l'histoire de France dans mon Auvergne. Mais du point de vue des langues, ça implique encore une fois des enseignants. Et là, on voit qu'on a à la fois des difficultés générales budgétaires, mais qu'on a également des difficultés de recrutement. C'est pas forcément aussi simple quand vous discutez avec l'éducation nationale de trouver ces enseignants.
Oui, en primaire, vous leur apprenez 10 mots et c'est déjà ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour s'imprégner de leur culture.
Quand on voit l'état des manuels scolaires, le contenu des manuels scolaires sur l'histoire de France, Benjamin, il sera d'accord avec moi. Déjà, l'enseignement de l'histoire de France, aujourd'hui, est fait de façon aberrante.
Et
antiproductive.
Mais t'apprends plein de trucs qui te serviront jamais dans la vie.
Rien. Et puis on élude. On élude des épisodes formidables sous prétexte qui seraient, aller savoir, ou nationalistes ou patriotiques. Ouais. Voilà. Donc le grand récit national français aujourd'hui, il est foulé aux pieds par l'éducation nationale qui devrait le promouvoir. C'est scandaleux.
On est tout à fait d'accord là-dessus. Après, il y a un danger également, et là j'ai un point de désaccord fondamental avec Perico, qui est celui du gouvernement régional. On le voit aujourd'hui en Europe. Il faut quand même avoir conscience de ce qui se passe. Tous les pays voisins sont aujourd'hui en voie d'éclatement, sauf l'Allemagne. Pourquoi? Parce que vous avez une logique purement symétrique en Allemagne. Tous les Länder ont les mêmes compétences.
Exactement.
Et dans les pays voisins, le régionalisme aujourd'hui détruit les politiques. En Espagne, en Belgique, en Italie, en Grande-Bretagne, on a des pays en voie d'explosion. Donc attention là-dessus. Oui pour un développement des cultures régionales, oui pour un investissement plus grand dans ces cultures. Attention en revanche à donner des gages aujourd'hui aux identités et à lier compétences et identités. C'est ça le vrai danger. À ce moment-là, on ouvre une boîte de Pandore qu'aucun de nos voisins n'a réussi à refermer.
C'est le débat qui nous rassemble.
Alors, on est avec Jean-Christophe qui nous appelle de Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour.
Et vous, Jean-Christophe, vos deux enfants parlent le basque?
Oui, mes deux enfants ont fait, appris le basque depuis la crèche jusqu'au bac.
Et ils ont quel âge aujourd'hui?
25 et 24 ans.
Voilà, mais vous le parlez aussi, Jean-Christophe, j'imagine?
Et non, moi je ne le parle pas, malheureusement.
Ah, mais c'est un drame. Voilà, en fait, vous ne parlez pas le basque, mais vous avez fait en sorte que vos enfants apprennent le basque. Mais pour quelle raison?
Parce que moi je suis ici d'un grand-père réfugié politique,
d'accord,
du franquisme, donc qui n'avait pas le droit de parler le basque. Donc, du coup, à l'époque, c'était la prison assurée. Mmh. Et donc, du coup, ça s'est perdu dans la famille. Et j'ai voulu, par le biais des Icachtola, j'ai souhaité que mes enfants retissent ce lien familial et puissent parler à leur tour le basque.
Et ils continuent à le faire aujourd'hui à 24 et 25 ans?
Alors, ils ont terminé leurs études, donc dans le cadre de leurs études, non. Mais c'est plus compliqué de le parler ici, côté français, je dirais, parce que ça se parle quand même, ça se pratique quand même un petit peu moins que le côté Pays Basque espagnol, mais dès que l'on franchit la frontière, ils sont amenés à le parler régulièrement, hein, restaurant.
C'est une langue officielle de l'autre côté de la frontière, c'est la différence.
Tout à fait, tout à fait.
Et c'est une fierté pour eux et pour vous?
Ah oui, moi c'est une véritable fierté. Je ne sais pas si mes enfants le mesurent pour l'instant, à l'heure actuelle. Ça a été long, notamment pour un de mes deux enfants. Il en avait un petit peu marre à la fin. Le second, ça s'est un peu mieux passé, mais malgré tout, je suis persuadé qu'ils en verront tous les bienfaits dans le futur. C'est indiscutablement du côté de la culture, du côté de l'apprentissage qu'ils ont eu, c'est une richesse fondamentale.
Bah merci pour ce témoignage, Jean-Christophe. Et effectivement, c'est bien que voilà, il y ait des enfants.
Et oui, plusieurs cultures, c'est une richesse.
C'est très rarement enseigné aujourd'hui. Donc
non, mais il faut justement continuer à préserver ces écoles particulières pour qu'on puisse continuer.
Mais même le Picard, Jérôme Lavrieux et Rémi Barré, c'est des gens du Nord. Il y a un patrimoine, il y a une culture, il y a un parler, il faut le préserver.
Mais dans toutes les régions,
ça fait partie de leur identité.
Pareil.
Et si Lavrieux est intelligent et brillant, c'est parce qu'il a parlé, c'est parce que son grand-père parlait Picard.
Pas du tout.
Mais bon courant, mais c'est pas que je te le dis.
Moi, j'ai un grand-père qui était du Berry, alors le Picard, il en avait un peu rien à
dire. Oui, mais ta grand-mère était Picard. Voilà.
On a parlé Picard en famille, je veux dire. Ça a toujours été en territoire français. Donc, c'est un français qui n'a pas très évolué, en fait.
Voilà, et le Patois du Nord qui a été remis au goût du jour avec Bienvenue chez les Ch'tis, notamment.
Ben oui.
Rémi Barré, on va terminer avec Henri, qui nous appelle de Campone, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour, Henri.
Bon dia tout en Nord-Ouest catalan. Voilà, je vous le fais. Bonjour à tout le monde du pays catalan.
Très bien, Henri. Très bien.
Moi, je suis un défenseur de langue catalane. Je ne suis pas un prof, je suis un monsieur tout le monde. Qui est parti longtemps de sa région et qui est revenu. Et en fait, on m'appelait l'espagnol, puis ça m'énervait un peu. Donc, je me suis un petit peu intéressé à l'histoire catalane. Et en fait, ça n'a absolument rien à voir. Donc, le catalan, comme le basque, c'est une langue binationale. Puis c'est une langue binationale en Espagne. C'est aussi la langue officielle de l'Andorre. Mais dans le département, elle est en perte de vitesse totale malgré tous les efforts. Bon, il y a un Delga qui a créé l'office du Gala en catalan, mais ils ont très peu de moyens. Voilà, il y a un petit. Et puis il y a un mélange des genres, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont catalans et qui n'ont pas du tout indépendantistes. Parce que, comme le monsieur précédemment, quand on passe de l'autre côté de la frontière, on parle catalan, point barre, on ne se pose pas de questions. Moi-même, personnellement, je parle castillan, mais je ne parle jamais castillan en Catalogne. Voilà, par exemple.
Ça devient compliqué, là.
Non, c'est facile.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a des intégrismes à l'intérieur des régionalistes. Il y a des intolérances et il faut effectivement
les corriger. C'est pas forcément l'intégrisme, Perico. C'est pas forcément.
Non, mais c'est pas moi. Vous allez dire ça. Je vous dis que chez les Catalans, il y a effectivement quelquefois une situation de tension quand on parle pas le catalan. Et voilà. Oui. Alors, s'ils savent que vous êtes un étranger, ils vous le répondent en espagnol, mais s'ils voient que vous êtes espagnol, ils vous répondent en catalan.
Exactement. Merci en tout cas, Henri, d'avoir été avec nous.
C'était très intéressant, il y avait beaucoup de choses à dire. Dommage qu'on n'ait pas trop le temps.
Ouais, on n'a jamais le temps.
Mais c'est déjà bien qu'on ait débattu de ça aujourd'hui.
Ouais, mais en tout cas, merci beaucoup, Henri. Et puis on va voir, si justement nos auditeurs, nos téléspectateurs ont peur de perdre cette identité régionale qui nous est chère, Rémi.
C'est massif, c'est oui. 81% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux sont inquiets.
Et on va remercier bien sûr Benjamin Morel, notre invité sur ce débat. Merci beaucoup Benjamin Morel.
Il faut lire son bouquin.
D'avoir été avec nous, quoi.
C'est un document historique exceptionnel, le bouquin de Benjamin Morel.
Mais je suis d'accord avec vous et on est ravis à chaque fois de l'avoir dans Estelle Midi.